L'énume, l'update, l'essentiel de la tech. Sur place ou à emporter.
La technologie avance, on vous aide à la rattraper, c'est Julien, bienvenue dans l'update saison 2. Au menu cette semaine, je reçois Sarah et Sevan du studio français 12 dixième pour la sortie de leur nouveau jeu Mio, Memories in Orbit. Un petit rappel avant de commencer, tous les vendredis vous retrouvez un nouvel épisode sur le site des numériques et sur les principales plateformes de streaming. D'ailleurs abonnez-vous pour ne rater aucune émission. Chaque semaine avec mes invités, on passe en revue l'actu tech de ces derniers jours, l'occasion de faire le point sur les nouveautés technologiques de demain, qui pour le coup sont celles d'hier. Cette semaine dans l'update, je reçois Sarah Ourcade et Sevan Kazandjian du studio 12 dixième. Comment ça va?
Eh ben ça va très bien.
Ouais, ah, ça va et toi?
Micro. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas forcément?
Alors moi c'est Sarah, je suis co-associée du studio et sinon pour le projet j'ai été producteur, donc j'ai géré les plannings, les budgets et un peu l'organisation de l'équipe.
Ok, donc là c'est les yeux dans les chiffres, les tableurs et l'organisation intendance.
C'est hyper fun, vous imaginez pas.
Donc on parlera et du studio et du jeu en question dans quelques secondes puisqu'on parle de jeux vidéo cette semaine. Sevan, ton rôle, ce que tu fais, dis-nous tout.
Oui, donc voici, donc, j'ai travaillé sur Mio Memories in Orbit et j'ai participé à beaucoup d'aspects du design, que ce soit en termes de narration, de construction de niveau ou de règles du jeu.
On parle du jeu Mio Memories in Orbit, c'est un jeu qui est sorti là cette semaine, puisque le podcast tombe un vendredi. Le studio 12 dixième, un studio français, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Il a une histoire?
C'est un studio qui a été créé au 1er avril 2017 par 7 associés. On vient tous pas du jeu vidéo.
D'accord.
On a fait tous plein d'autres choses avant et on a monté ce studio parce qu'on faisait des jeux dans notre salon depuis quelques années, sur nos week-ends, nos temps libres. Et on s'est dit, vas-y, on va monter un studio, on va voir ce qui se passe. Et j'ai envie de dire, miraculeusement, ça a marché. Mais nous-mêmes, on ne sait pas exactement pourquoi. Voilà. Et on a sorti un premier jeu chez Deep Art of Me. On a mis 4 ans à produire. Et là, ça fait 5 ans qu'on était sur Mio et qui sort demain, du coup. Donc, c'est notre deuxième jeu.
Ah oui, voilà. Donc, pour la petite histoire, là, on est en train d'enregistrer la veille de la sortie du jeu. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment les avis de chacun. On a des petits avis quand même qui sortent parce que certains ont pu quand même tester le jeu avant. Mais on ne sait pas encore. Là, au niveau du thermomètre, on ne sait pas encore. Donc, j'imagine qu'il y a un petit stress quand même.
Ah oui, oui. C'est un stress, mais un stress à la fois plein d'excitation et à la fois vers un peu de peur.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce jeu qui a une patte graphique particulière, que j'apprécie parce que moi je suis un peu lecteur de bande dessinée et de romans graphiques, donc ça me parle forcément. Il y a un petit aspect 3D, 2D dessiné, donc côté un petit peu mine de rien humain, qui est plutôt intéressant. S'il y a un jeu, un film, un animé ou peut-être une bande dessinée qui aurait pu vous inspirer, ce serait quoi?
Ernest et Célestine.
Oh, carrément.
Ouais.
Oh, bah, ça va parler. Ah oui, bah, carrément. Oui, tout à fait. Un peu aquarelle, tout ça, les dessins crayonnés.
Ouais.
J'ai pu entendre Black Sad aussi.
Ouais.
Une BD que j'aime beaucoup.
Black Sad, Guarnido, de façon générale, le dessinateur est juste. Enfin, c'est du génie. Catherine Meurice, qu'on aime beaucoup en termes de graphisme aussi.
Oui, donc voilà.
Principales inspirations.
Pour que les gens puissent un petit peu se matérialiser, ce que ça peut être graphiquement le jeu. Est-ce qu'on arrive encore? Alors ça, c'est une question que je me pose personnellement. Est-ce qu'on arrive encore à jouer en rentrant à la maison sans avoir le sentiment de ramener du taf à la maison?
De jouer à d'autres jeux ou jouer à celui-là?
À d'autres jeux, j'imagine quand même, parce que le jeu, vous le connaissez dans tous les sens. Est-ce qu'on arrive encore à rentrer et à se dire, tiens, je vais me caler devant un jeu?
Ouais, moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et c'est vrai que je joue à des jeux vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où on joue à un jeu pour l'analyse un peu, mais ça reste quand même agréable pour moi.
Moi, j'ai des phases où je ne joue plus du tout à des jeux vidéo pendant plusieurs mois. Et puis des phases où je me remets là, je suis dans une phase où je joue.
Ouais.
Mais du coup, ça dépend vraiment des moments et des périodes, quoi.
On a une envie de se dire, bon, je fais une pause, là, j'ai besoin de déconnexion. Est-ce qu'il y a une idée reçue sur faire un jeu en France que vous avez envie de démonter?
Moi, je trouve qu'il y a ce qui est cool avec la France, c'est qu'il y a plein de gens qui font plein de jeux.
Mmh.
Et il y en a qui sont trop bien au milieu. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait une friend touch particulière dans le sens où il y a tellement de styles, tellement de genres. Il y a énormément de jeux. Genre là, récemment, entre Expédition 33 et Absolum, je cherche le point commun.
Mais est-ce que le côté disruptif, c'est pas un petit peu l'esprit français?
C'est possible. C'est parfaitement possible. L'envie de changer un peu les codes et de revoir des trucs, c'est vrai que je pense que ça joue. Le côté très artistique, je pense que... En plus, la bande dessinée, on l'a citée tout à l'heure, je pense qu'elle a inspiré tellement d'auteurs de jeux vidéo.
Carrément.
Et ça fait partie de la culture, donc je pense que ça a un gros impact. Après, je pense que je m'y connais un peu moins bien en level design, game design, pour voir est-ce qu'il y a des inspirations dans notre culture, dans notre façon de fonctionner. Mais c'est certain, je veux dire juste la langue. Je veux dire, il y a tellement de choses qui vont avoir des impacts sur nos façons de réfléchir que je pense que tu as forcément un biais Et tu vas recréer des choses que tu connais, des architectures que tu connais, des raisonnements que tu connais, quoi.
C'est marrant de parler du côté disruptif, et c'est vrai, il y a des choses nouvelles qui se font. Et il y a aussi Ubisoft qui est très français, mais qui est plutôt dans le
mainstream,
mainstream et conservateur. Ouais. Je me demande peut-être d'ailleurs qu'il y a une forme de réaction aussi de studios français de
envie de se démarquer,
pas, de se démarquer de Ubisoft et de ces choses-là. Est-ce que on l'a plus parce qu'on est plus proche d'eux, c'est...
Sans doute, mais c'est vrai, c'est pas bête. Est-ce que cette patte graphique, c'est vraiment ancré en vous ? Est-ce que c'est une réflexion en interne ? Est-ce que c'est dû peut-être à la sensibilité de certaines personnes de l'équipe ?
Alors, pas la mienne. Ouais. Je trouve ça très joli, mais...
Comme ça, c'est dit.
Je trouve ça extrêmement joli et j'adore ce jeu, mais moi, je peux dessiner des bons hommes bâtons.
Ok.
Dans les associés fondateurs, on a tous on est 6 à partager ça.
Ok. S'il fallait pitcher MIO, MIO, Memories in Orbit, est-ce qu'on pourrait le pitcher en une minute ?
Un Metroidvania, ça veut dire que c'est un platformer 2D, un peu comme le tout premier Mario. Mm-hmm. Mais au lieu de mettre les niveaux niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3, c'est un grand vaisseau spatial, en l'occurrence, qu'on va explorer. Donc c'est un énorme niveau. Il y a des portes fermées, il y a des endroits inaccessibles, il faut qu'on trouve des clés, il faut qu'on trouve des pouvoirs supplémentaires, et le tout, du coup, un peu dans l'ordre où on tombe dessus, mais c'est chaque joueur pourra avoir son expérience différente de ce point de vue.
Ça impose aussi peut-être de faire des retours en arrière, de revenir à des endroits,
voilà,
etc.
On retourne explorer une zone avec un nouveau pouvoir pour retrouver des endroits cachés.
L'objectif étant d'avoir fini le jeu en totalité, quoi.
Voilà, il y a moyen de finir le jeu, et même une fois qu'on a fini le jeu, il reste encore probablement beaucoup de secrets à découvrir dans des zones qu'on a déjà explorées, peut-être même des nouvelles zones qu'on n'aurait pas trouvées, et des choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin de tout faire pour finir le jeu, mais il y a les secrets notamment sur la narration, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce vaisseau, etc. Pour avoir les réponses les plus profondes, il faut aller explorer justement les zones les moins balisées.
Est-ce qu'on peut donner une thématique ? Est-ce que c'est de la SF ? Est-ce que c'est...
Voilà, moi, j'ai envie de te dire, c'est un jeu d'exploration. T'explores effectivement les mécaniques de jeu, mais ça, c'est des trucs... Enfin, tout le monde le sait, tout le monde l'imagine déjà, mais en fait, t'explores aussi l'univers qu'on te propose. Il y a une lore assez détaillée qu'on a rédigée. Il n'y a pas du tout qui a été mis dans le jeu.
Ouais.
Mais tout est cohérent.
Et l'histoire en toile de fond, c'est quoi ?
Moi, sur la thématique que tu dis, je pourrais te dire... la question, c'est... C'est quoi la réaction face à la fin du monde qui arrive ?
J'aime bien, on dirait une question, là, vraiment, une vraie question sérieuse, parce qu'elle mérite d'être posée. Là, je n'aurais même pas y répondre, mais j'espère que le jeu y répond. Ben,
je ne suis pas sûre que la réponse soit extrêmement enthousiasmante, mais...
Mais le jeu offre des facettes émotionnelles, disons.
Je pense que si tu cherches un thème qui se répète dans toutes les dimensions du jeu... C'est le contraste entre l'organique et le robotique.
Est-ce que les inspirations aussi du cinéma, on peut en trouver. Parce qu'on pourrait penser en bande dessinée, je pensais aussi à Mobius, etc. Est-ce que des Cronenberg, tout ça, le côté un petit peu mécanique et organique en même temps, le mélange de tout ça ?
Je pense qu'il y en a eu. Alors, ce sera plus dur pour moi d'en parler. Alors, ce qu'il faut... En fait, il y a un contexte qu'il faut donner. On est très déstructuré.
Donc, un bordel organisé.
Oui, c'est ça. On n'a jamais fait un document avec la liste des références. Donc, chacun a apporté ses références.
Okay.
Et en l'occurrence, on a quelqu'un qui a bossé pas mal sur l'art, donc qui était en gestion équipe art, tout ça, qui est un grand féru de cinéma. Donc, je pense qu'il a apporté de ses références à lui, mais que je ne pourrais donc pas citer parce que moi-même, je ne suis pas une grande féru de cinéma.
C'est vrai que par certains aspects, le jeu, c'est un peu un agrégat, un melting pot des idées de chacun et où c'est pas si grave s'il y a des gens qui ont des références différentes à des endroits, même si il faut, par exemple, d'un point de vue visuel,
bien sûr,
il y a bien sûr une grande cohérence, etc. Et sur la narration, on peut mettre des choses un peu plus... Enfin, qui ne sont pas forcément en accord total avec... Je ne sais rien, en fait, mais ce n'est pas ça qu'on essaye de faire. On n'essaye pas de refaire du Mobius dans tous les aspects. Donc ça, c'est dire que chacun ramène ses expériences de narration.
Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'on est tous conscients que tu ne peux pas faire la même chose à 10 et à 200, évidemment. Mais par contre, c'est vrai dans l'autre sens aussi. Il y a des trucs que tu peux faire à 10 et que tu ne peux pas faire à 200.
Il y a forcément des contraintes à un moment donné. En parlant de contraintes, est-ce qu'il y a un moment de Mio dont vous êtes fier, pas forcément le plus spectaculaire, mais un truc qui a marché sur les playtests ?
Ouais, moi, il y a un endroit que j'aime bien. C'est le moment où tu arrives dans Heaven. Dans le jeu, c'est un endroit... Alors du coup, je ne sais pas ce que c'est le nom en français. On a écrit le jeu en anglais, on est les mauvais. Mais il y a un endroit dont on a parlé au tout début, Et ouais. On l'avait intuité avant même de le faire et ça a toujours marché. Et cet endroit, il n'a pas bougé. C'est un des rares endroits du jeu qui n'a pas bougé depuis 4 ans.
En 4 ans de développement, ouais. C'est le seul truc qui a vraiment
pas...
Je
suis allée récemment rechercher pour voir les anciens rendus, nouveaux rendus, etc. Ouais. Et j'ai pu vérifier, en fait, la première fois où on a fait ce truc-là, franchement, il y a des petits changements, les rendus ont changé, on a amélioré...
Mais l'idée est là, quoi.
Mais c'est la même chose, c'est la même scène, c'est la même mise en scène, c'est le même endroit.
Et est-ce qu'il y a une contrainte en particulier, peut-être de fonctionnement, de moyens, peu importe, qui finalement a rendu le jeu meilleur?
Bah, le moteur propriétaire.
Ça, c'est
le rendu du moteur, c'est...
Sous cette particularité, vous avez votre propre moteur.
Ouais. Et le rendu de ce moteur, c'est évidemment plein de décisions créatives, mais c'est une quantité délirante de contraintes.
Et est-ce que les playtests vous ont permis de modifier des choses que vous n'avez pas anticipées?
Oui, à chaque fois. Chaque fois.
Vous en faisiez régulièrement?
Tous les 3 mois.
Ah oui, quand même. Ah oui, non. Tous les 3 mois sur 5 ans. Ça, au final, oui, c'est un énorme travail, quoi.
Ouais. Et les choses, je pense que les choses que ça a le plus, là où ça a le plus d'impact, c'est sur le level design, c'est-à-dire la structure du niveau, la circulation que font les joueurs et leur frustration vis-à-vis de ça. J'ai l'impression que c'est là-dessus qu'il y avait c'est la partie la plus gameplay du jeu aussi, donc c'est logique qu'il y ait des retours là-dessus. Et notamment sur comment est-ce que les joueurs explorent et qu'est-ce qui permet de structurer leur exploration. Par exemple, des ascenseurs, et ben ça a un impact sur la façon d'explorer parce que il y a une petite barrière à se dire avant de changer d'étage, je vais finir l'étage que j'ai aujourd'hui. Et une fois qu'on voit ce comportement, et ben ça nous rend plus malin sur le positionnement de l'ascenseur, voire d'en rajouter ou des choses comme ça. Et on sait que ça, les joueurs vont le trouver parce que c'est sur l'étage qu'ils ont déjà commencé à explorer.
Exactement.
Et c'est jamais vrai à 100%. Mais quand même, et aussi, ça nous a aussi beaucoup rassurés sur le fait que de toute façon, les joueurs vont explorer. Et s'il y a une porte qu'ils n'ont pas prise, ils vont la prendre plus tard tant qu'elle est relativement bien présentée. Donc on n'a pas à se stresser du fait qu'il faut absolument qu'ils aient trouvé ça. Ils vont le trouver, ils vont le trouver. Donc ça, c'est aussi rassurant sur ce type de jeu de voir que les joueurs, ils explorent bien.
Et donc, au-delà de la partie graphique ou simplement même de l'histoire, etc., ou même de trouver justement tout ce qu'il y a à ajouter dans le jeu, l'étude de comportement est importante.
Ah bah, le nombre de fois où on a designé un truc en se disant « Ouais, là, le joueur, il va arriver là, il va prendre le chemin en haut, ensuite, il va prendre à gauche. » Et alors, tu fais un playtest, tous les joueurs, ils vont à droite. Et tu te dis « Moi, il y a un problème. » Et là, tu changes, tu mets de la lumière, tu changes, tu élargis le chemin. Tu fais, t'as plein de stratégies possibles, mais tu changes le level design. Tu te dis « Mais en fait, ça ne marche pas. On pensait que le joueur allait faire ça, il a fait complètement autre chose. » Et c'est arrivé, mais tellement de fois.
On imagine qu'on parle à des joueurs qui ont déjà joué à votre précédent jeu. Comment on leur donne envie de jouer au nouveau? Qu'est-ce qui diffère du précédent?
Tout. Tout. Il n'y a rien. Il y a aussi le rendu un peu.
Le rendu visuel.
Et encore, parce que chez The Part of Me, le rendu, c'est très sombre. On est quasiment noir et blanc, même s'il y a des légères touches de couleur. Là, on va être sur un jeu où on est parti plus dans le pétillant, dans du contraste. Il y a des lumières, il y a plein de lumières.
Le jeu sur les lumières, d'ailleurs, est super intéressant.
Ouais.
Et par contre, je dirais aussi attention, parce que c'est un jeu qui est difficile, avec du combat, du platforming difficile et beaucoup d'exploration, qui sont des qualités qu'il n'y avait pas dans le jeu précédent. Mm-hmm. Et donc, peut-être que c'est à la fois une force et une faiblesse. Il y a plein de joueurs qui adorent ça, la difficulté, le combat, etc. Et peut-être que des fans absolus de Shady Part of Me, pour le côté puzzle contemplatif, ils trouveront pas leur compte. Donc, je préfère aussi le dire.
Non, c'est cool. C'est aussi une autre façon de voir le jeu. C'est très bien. C'est un peu nouveau dans le podcast. Maintenant, je fais réagir les invités à l'actu du moment. On va parler un petit peu de l'actu gaming, puisque c'est votre partie. Il y a une petite console qui devrait arriver dans les mois qui arrivent, la Steam Machine de Valve. Et les rumeurs parlent quand même d'un prix qui risque de faire flipper. On pourrait se rapprocher des 1000 euros, ce qui est quand même énorme. Certaines n'ont pas été jusque-là. Est-ce qu'un nouveau hardware type PC console qui arrive si cher, est-ce que ça peut changer des choses du côté des studios indés?
Je peux même le faire un comparatif dans l'autre sens. On n'a jamais utilisé, on n'utilise pas les capacités améliorées de la PS5 Pro, par exemple. D'accord. On n'en a pas besoin. On a un jeu, on veut qu'il tourne sur un maximum de consoles, on veut qu'il tourne sur la Switch. À partir du moment où il tourne sur la Switch, on n'a pas besoin d'une machine de guerre derrière pour faire tourner sur les autres plateformes.
Et est-ce qu'un prix élevé peut créer une nouvelle niche?
Ce qui me surprend sur ça, c'est que j'imagine que c'est une plateforme pour jouer au jeu Steam, mais quelque part, la Steam Deck, qui coûte donc la moitié du prix, qu'on peut docker à sa télévision, elle permet déjà de faire tourner Expedition 33 et Baldur's Gate 3 ou des choses comme ça, qui sont finalement des jeux, enfin les jeux à la pointe, quoi. Donc, pourquoi une console beaucoup plus puissante de la part de quelqu'un qui n'est pas un fabricant de jeux? C'est-à-dire que Nintendo, qui a sa console avec ses propres jeux, ou Sony, qui pourrait avoir ses propres exclusivités, s'il faut mettre une console et des jeux qui vont avec, ça se vend un peu de pair, la console et les jeux. Là, la question, c'est quel jeu? C'est quoi le binôme console et exclusivité pour vendre des jeux aussi chers? Parce que si je peux faire tourner les mêmes jeux sur mon Steam Deck, personnellement, même avec une qualité graphique réduite, je le ferais. Mais ça sent aussi peut-être, peut-être qu'on ne le sait pas, mais un jeu super pointu, un peu
qui exclusif
de maintenant, quoi. Ouais, exclusif, mais peut-être qu'en termes de... Il ne tourne pas ailleurs juste parce que les PC ne sont pas assez puissants ou ce genre de choses. Mais c'est quoi ce jeu?
Ce serait
énorme. Je suis plus à cheval que toi sur les graphismes. Et j'ai un Steam Deck, j'ai un ordinateur, et je joue à Expedition 33, et je l'ai lancé sur mon Steam Deck, et je l'ai éteint sur mon Steam Deck, et je suis allé le lancer sur mon ordinateur.
Ah. Et okay.
Donc, il y a bien une différence.
Je pense qu'il y a une grosse différence. Les graphismes, ça n'a rien à voir. Tous les Unreal 5, de façon générale, c'est très coûteux en termes de processeur et de GPU, surtout, en fait. Et du coup, on a de plus en plus de jeux qui sont très chers, qui ne vont pas tourner à qualité et à visuel maximum sur Steam Deck. Donc, bien sûr, les gens vont faire l'effort pour que ça tourne à minima, mais ce ne sera pas à la qualité graphique attendue par une partie des joueurs, en tout cas.
C'est, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un tournant. On sent que Xbox, lui aussi, veut passer sur le PC console. Est-ce que c'est ce besoin de puissance?
Je ne sais pas trop. Là-dessus, moi, pour le coup, je ne suis vraiment pas spécialisée sur ces sujets-là. Donc, je n'ose pas trop. J'ai l'impression d'avoir, comme je disais tout à l'heure, un avis non éclairé que je transmets. Mais après, 1000 euros, moi, je trouve ça cher. J'ai l'impression que ça va surtout créer une communauté de joueurs qui peuvent se le permettre.
Ouais.
C'est des questions de stratégie. Moi, je sais que, par exemple, c'est une discussion qu'on a eue quand on a réfléchi au prix de jeu pour Mio. On a volontairement voulu lui mettre pas cher. En fait, des jeux avec, si tu veux faire tout le jeu, etc., il y a 40 heures de gameplay.
Ouais.
Au bout du compte, on a mis ce jeu à 20 balles, ce qui est extrêmement peu cher pour ce type de projet.
Et 5 ans de travail, on le rappelle.
Non, mais je trouve ça hyper cool parce qu'en fait, le but, c'est pas de parier. Bien sûr, tout le monde veut rentabiliser son jeu au moins un minimum. On veut au moins se rembourser. Et en fait, tu as deux stratégies. Tu as la stratégie de le vendre très cher et la stratégie de le vendre beaucoup. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Et idéalement, si tu peux le vendre beaucoup très cher, c'est mieux, mais on n'est pas Ubisoft, justement. Donc, on n'a pas essayé cette stratégie-là.
D'ailleurs, ils ont échoué sur Zero Metroidvania qu'ils ont mis très cher à 50 euros et qu'ils n'ont pas vendu beaucoup. Et
exactement.
On pense que c'est un peu lié à ça aussi.
Bah, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de reviews et beaucoup de retours. Moi, je ne connais que des gens qui me disent du bien de ce jeu et qui me disent mais c'était trop cher pour ce que c'était. Du coup, moi, je trouve ça bien. Moi, j'adore. Enfin, je trouve ça hyper cool que, de façon générale, et là, c'est plus général et moins jeux vidéo, mais moi, je trouve que la culture, plus c'est accessible à tout le monde, mieux c'est.
En parlant de tarifs, le prix de lancement de la Nintendo Switch 2 avait un peu refroidi les fans au moment de la présentation. Nintendo a finalement baissé suite à sa nouvelle console avec le temps. On aurait pu penser que la tendance serait inverse comme chez d'autres concurrents. Il y a la crise de la RAM en ce moment qui inquiète tous les fabricants, que ce soit pour les jeux vidéo, les ordinateurs, les smartphones. Ça laisse craindre une hausse. Pour l'instant, Nintendo se veut rassurant en disant qu'il regarde ça de près, mais que ça ne devrait pas changer les prix, que là pour l'instant la tendance est à la baisse et que ça devrait le rester. Quand les coûts des composants montent et que les configs risquent aussi d'être sacrifiés, est-ce que vous anticipez ça côté dev?
On n'anticipe rien, nous.
Ouais.
Pardon?
On n'anticipe rien, nous. On dit au jour le jour, on verra le jour où ça arrive.
S'il faut acheter de la RAM et qu'elle est plus chère, on dit ah bon, c'est plus cher.
Et c'est déjà arrivé.
J'adore ce côté, ouais, bon, on verra.
Non, mais plus prosaïquement, quand on développe un jeu comme Mio, tu l'as dit, ça dure 5 ans.
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux prévoir le marché de la RAM dans 5 ans ou de la carte graphique dans 5 ans, enfin,
c'est impossible.
Il y aura des
c'est impossible, du coup, on se laisse porter par le courant. Mmh. En ce moment, il y a quand même un petit mot d'ordre en interne que ce n'est pas le moment de casser son ordinateur. Mais à part...
Note de service, s'il vous plaît, les gars, déconnez pas.
Mais si quelqu'un casse, on va le racheter, il n'y a pas le choix de toute façon. Donc ça ne sert à rien de trop se mettre... je sais quoi l'expression
française,
la rade de gros boulot. Exactement.
Une expression bien Jones.
C'était exactement celle que je cherchais.
Est-ce que ça peut influencer les choix de direction artistique quand on sait que certaines consoles sont, ou non, moins bien ou mieux spéquées?
Nous, on a vraiment réussi à sortir le jeu sur, par exemple, la Switch 1, qui est la console avec les performances les plus faibles sur laquelle on fait tourner le jeu. Mais elle était déjà en existence il y a 5 ans.
Ouais.
Donc, en fait, on réfléchit à ce qu'on vise maintenant. Mais c'est dur de dire, est-ce que notre jeu il va tourner sur, je sais pas, la PlayStation 6, qui n'est même pas encore annoncée. Ça, on ne le fait pas. Donc, mais comme nous, on a aussi des jeux assez grand public et assez réduits, nous, on peut se permettre de faire des jeux sur des consoles, comment dire, on fait sur les consoles d'aujourd'hui, quitte à ce que ça change à la Switch 1, à la Switch 2 ou ce genre de choses.
Après, les consoliers nous forcent en partie quand même, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, le portage sur la Switch et la validation sur la Switch 2, il a fallu montrer patte blanche. Et quand j'entends patte blanche, c'est montrer qu'il y aura une valeur ajoutée.
Qu'il y a un gap, mine de rien, visuel.
Alors, en l'occurrence, nous, c'est visuel, mais ça pourrait être autre chose. On pourrait utiliser une des nouvelles features de la Switch 2. Enfin, il faut pouvoir démontrer que ce n'est pas juste le même jeu.
Parce qu'eux ont besoin aussi de...
Bah, bien sûr, enfin, tout le monde qui a retrouver ses billes dans l'histoire. Ça aussi, c'est une expression de Jones.
J'aime bien ce podcast. C'est vrai que c'est intéressant de se dire que, mine de rien, vous ne lancez pas un jeu comme ça, vous ne travaillez pas sur un jeu dans votre coin. Il faut quand même avoir des relations avec les consoliers. Ce n'est pas toujours évident, j'imagine.
Alors, on a beaucoup d'aide parce qu'on a un éditeur.
Ça, et pour faire tampon.
Ça fait tampon et surtout... je vais être transparente. Quand on négocie un deal avec Xbox, quand tu négocies toi tout seul pour ton petit jeu indé ou quand tu négocies pour ton petit jeu indé et Space Marine, tu négocies pas la même chose. Oui. Alors, je dis ça, c'est vraiment pur exemple. Je ne sais pas ce qui a été négocié. Je n'étais pas dans cette table de négociation. Donc,
c'est
vraiment
d'être
sûrement
derrière,
théorique
quand même,
ce que je raconte. Mais oui, et en fait, juste focus, eux, ils négocient des...
Un catalogue.
Ouais. Ils négocient leur catalogue. Et c'est normal en tant qu'éditeur. Mais du coup, ils n'ont pas le même rapport. Évidemment, ils ont des contacts privilégiés. Le jour où on a été... la première fois qu'on a parlé avec Focus, c'était pour Shady Part of Me. Jusqu'alors, on avait un espèce d'échange de tickets avec Xbox pour résoudre des bugs, des machins, etc. Je m'en souviens très bien. Et on n'avait pas de réponse. On se galérait, machin, etc. Ça. Et on signe avec Focus. Et là, on est mis en contact avec un mec chez Focus qui est genre... C'est l'araignée tentaculaire qui gère tous ces trucs-là. Et genre, ce mec, on lui a dit « Ouais, on a ce truc-là, etc. » Et il a dit « Attends. » Franchement, métaphoriquement, il nous a pris dans la file d'attente, puis il nous a mis tout devant. Il nous a donné un mail perso d'un mec chez Xbox qui nous a répondu le lendemain.
D'accord.
Je veux dire, et là, tu te dis, ah oui, on n'était pas dans la bonne file d'attente. Je ne sais pas, il y avait un truc, voilà. La vie a changé à ce moment-là.
Le petit fast pass, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Ben, c'est très bien de parler de Xbox parce que plusieurs médias évoquent une nouvelle formule de leur abonnement cloud gaming, le Game Pass. Un de ces abonnements pourrait être financé par la pub. On ne sait pas encore s'il le serait totalement ou en partie, donc si le coût serait réduit ou s'il serait totalement gratuit. Est-ce que le combo offre bon marché plus la pub ? Est-ce que vous sentez ça comme une opportunité de faire découvrir des jeux indépendants ou un risque de dévalorisation des jeux à terme ?
C'est une excellente question.
J'essaye.
Je ne sais pas si ça change le Game Pass par rapport à la pub ou pas, etc. Effectivement, si le Game Pass était gratuit, par exemple, aucune idée de ce que ça voudrait dire sur le jeu vidéo, parce que ça veut dire qu'ils achètent tous les jeux à un prix fixe et ça casse un peu le mythe en fait, peut-être mon jeu, il va complètement exploser, peut-être qu'il va complètement flopper aussi. Donc... c'est vrai que le jeu vidéo, c'est quand même tellement le summum du capitalisme dans le sens où, enfin, de la start-up American Dream, etc. Tu fais un truc qui coûte potentiellement plusieurs millions, plusieurs centaines de millions pour les plus gros.
Ouais.
Et ensuite, il y a un jour, tu le lances et tu dis « Ah, bon, on a fait fois un dixième ou on a fait fois dix. » Et donc, c'est tragique, mais en même temps... J'aurais pas spécialement envie de faire un jeu au contraste sans avoir ce rêve-là, c'est-à-dire, on finance le jeu pendant 4 ans et puis à la fin, de toute façon, c'est le Game Pass et le succès du jeu n'aura pas d'influence sur vous. Quoi.
Bien sûr.
C'est aussi ça qui.
Comment est-ce qu'il se rémunère dans cette histoire ? Parce que moi, le monde dans lequel les trucs sont gratuits, j'adorerais vivre dans ce monde-là, mais je le connais pas. Donc, c'est-à-dire, d'une certaine façon, il se rémunère. Est-ce qu'il y a des pubs dans les jeux ? Est-ce que...
Alors, c'est ça la question. C'est est-ce que les pubs sont intégrées autour du jeu ? Est-ce que les pubs sont avant chaque session ? Est-ce que, pour l'instant, il y aurait cette fameuse offre publicitaire qui arriverait ? En tout cas, ça fait un peu flipper. On parle aussi d'une session limitée à une heure. Donc ça aussi, ça réduirait un petit peu le temps de jeu des joueurs. Est-ce que de tels changements dans le secteur, ça obligerait aussi à revoir le gameplay ?
Alors pour l'instant, nous, c'est clair qu'on ne va pas développer un jeu spécifiquement pour les contraintes du Game Pass. Donc je pense que ça limiterait plus le fait qu'on ne signerait pas le Game Pass.
Moi, moralement, en fait, c'est déjà le cas de mon point de vue. C'est-à-dire que tu peux te faire refund d'un jeu sur Steam au bout de 2 heures. En fait, les démos gratuites sur Steam, il y en a sur tous les jeux.
J'aime bien cet esprit français un petit peu... On est cash, on parle cash. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt cool. D'ailleurs, en parlant d'esprit français, s'il y a bien un loup que tout le monde connaît, c'est le plus connu au monde, c'est celui de la pub Intermarché actuelle, le mal-aimé. Je pense que c'est le loup le plus connu. Il y a aussi, côté jeux vidéo, un succès dont tout le monde a parlé cette année, qui est reparti avec plein de trophées, c'est Clair Obscur. Il y a une hype française, ça entretient en tout cas cette hype des studios français, que ce soit dans l'animation, dans le jeu vidéo. C'est réel ou c'est un effet loop médiatique de votre côté ?
Non, il y a des vrais talents en France qui sont super bons là-dedans. Et je veux dire, c'est pareil pour les... Enfin, c'est le même studio, c'est un studio français aussi qui a fait Arkane. Enfin, je veux dire, c'est pas qu'il y a un truc avec la France, c'est qu'à un moment, il y a eu des écoles, il y a eu des gens qui se sont formés et il y a un pool de personnes qui sont bonnes à ce qu'elles font en France. Et il y a plein de facteurs qui ont probablement joué à ça. Le résultat, en tout cas, il est là. Et
les étoiles s'alignent en ce moment. C'est-à-dire que les Américains commencent à encore plus solliciter les studios français, dans l'animation en particulier. Je pense à DreamWorks qui va faire travailler des animateurs en France, parce qu'ils n'ont plus de studios à eux, donc ils vont chercher des studios ailleurs. Les jeux vidéo, les publicités, où on voit les Américains utiliser l'IA pour une pub Coca-Cola et les Français faire pour Intermarché un spot entier en animation française fait à Montpellier. Et au final, c'est celui-là qui cartonne et dont tout le monde parle. Il y a finalement peut-être aussi, c'est le moment, quoi.
Ouais, et puis en même temps, c'est historique, parce que Technicolor, c'est français. C'était il y a 15 ans, le rachat de MacGuff Illumination par Illumination, du coup. Cette affiliation de la France avec l'animation particulièrement, elle est là historiquement depuis les débuts de la 3D.
Comment on sent la French Touch dans un jeu ? Alors, pas le vôtre, puisqu'on en parlait tout à l'heure, vous avez déjà, vous, votre propre identité. Mais quand vous jouez à un jeu, des fois, vous dites, ah, on sent quand même que c'est des gars de chez nous, mine de rien.
Et pas juste quand il y a marqué baguette toutes les quatre.
Exactement, et des bérets sur tous les personnages.
Je peux pas répondre à cette question parce que du coup, je suis un peu biaisée. Je suis un peu trop. Bah oui, et puis même, je connais beaucoup de gens dans les jeux vidéo français. Je me tiens quand même bien au courant de ce qui est en train d'être en cours de production. J'ai quand même une assez bonne vision de pas mal de trucs qui sont en cours de prod. Et en fait, souvent, je sais déjà que c'est un jeu français avant de le lancer.
Moi, je vois pas trop de French touch. Par exemple, même Clair Obscur, il y a des Tours Eiffel, il y a des bérets. Mais il y a aussi des jeux ou des films américains qui se passent en France. Les Hitman, ça se passe dans tous les pays et des choses comme ça. Donc, moi, je suis très content en vrai, de voir une Tour Eiffel dans un jeu vidéo. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais si on m'avait dit que Expedition 63, ça avait été fait par un autre pays, l'Espagne, le Japon, la Chine, les États-Unis, j'y aurais cru, en fait.
Il n'y a pas une exigence purement française ?
Non, je pense pas. Je pense qu'en vrai... Et puis en plus, on est même dans l'autre sens. J'ai envie de dire, on est en plein dans une période où il y a une énorme émergence des studios, par exemple, d'Amérique du Sud. Il y a de plus en plus de jeux vraiment quali qui sortent en Amérique du Sud. C'est horrible à dire, mais ils se font payer beaucoup moins cher aussi. Ils coûtent beaucoup moins cher, donc ça va aussi avoir un impact sur le marché. Je pense qu'il y a un amour de l'animation qui est là et qui se transmet parce que les profs, ils parlent à leurs élèves, que les profs, généralement, eux, ils ont fait de l'anime avant. Et ce truc-là, il se transmet. Et je trouve qu'il y a un truc de la dimension très artistique du jeu. Je sais que, tu vois, Sevan, par exemple, t'es très, très fan des jeux qui sont... Bah, tu parlais de Steven Sausage Roll, qui est un excellent jeu, mais où la dimension artistique a été acceptée comme étant mise de côté. J'ai l'impression qu'on fait un peu moins ça en France.
C'est possible qu'il n'y ait pas des jeux indépendants très moches. Après, il y a plein de pôles. Enfin, il y a des gros pôles de jeux vidéo historiques dans pas mal de pays. Donc, il y en a en France, aux États-Unis, bah, il y a tout Valve. Au Japon, il y a tout Square Enix, par exemple. On a tout le studio de CD Projekt 13, par exemple. En Pologne. Donc il y a des pôles comme ça qui sont vraiment des pôles. Mais pareil, est-ce qu'on peut voir que c'est des Project Red où on peut dire qu'il y a une Polish Touch
Non, mais après, je suis d'accord que là, ce que tu cites, c'est des très, très gros studios, pas un réseau de plein de studios. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver plus facilement, je trouve, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, où là, genre, t'as pas juste une très très grosse industrie en mode Ubisoft. Non, je trouve que justement, ce que tu vas retrouver en France et dans d'autres pays, c'est ce truc où t'as plein de petits studios, t'as plein de petits studios qui quand même survivent malgré le fait que l'industrie va pas très très fort en ce moment.
Mais je pense que c'est beaucoup plus facile de connaître le réseau de petits studios de chez nous et du pays voisin.
Oui, c'est sûr.
Et donc, je ne saurais pas dire qu'il n'y en a pas...
Les gros studios, comme Ubisoft, par exemple, heureusement qu'ils sont là, parce qu'en termes d'apport politique, de poids pesé sur des décisions à grande échelle pour le pays, sur des subventions, sur des aides, etc. Mais s'ils n'étaient pas là, on serait dans la panade, quoi.
C'est vrai.
Ben moi, j'ai juste une chose à vous dire, Sarah, Sevan, merci déjà d'être venu. Et on le rappelle, il y a la sortie de Mio, Memories in Orbit, et qui sort sur console et PC. C'est dispo. Merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre mise à jour. Ciao.
Retrouvez l'émission ainsi que tous les podcasts des numériques sur notre site lesnumériques.com et vos plateformes de streaming préférées.